Gloire à notre Dieu. Eh bien, et ça se poursuit. Nous sommes toujours à l'étude de cette thématique. Nous poursuivons l'étude de cette thématique ô combien importante pour la foi chrétienne, protestante, évangélique, qu'est la repentance. Ce n'est pas terminé tant que ce n'est pas terminé. Alors, vous allez devoir m'endurer un deux mercredis encore pour que nous puissions continuer à voir le sens, la description, la définition, les mobiles de la repentance pour le salut. Mercredi dernier, je m'en souviens très bien, je ne sais pas si vous l'avez oublié, nous avions regardé en quelque sorte, j'ai dit bien en quelque sorte, la part de Dieu dans la repentance pour le salut. La part de Dieu. J'ai bien expliqué qu'est-ce que j'entends par la part de Dieu, puisqu'on sait que Dieu agit avant, pendant et après. Mais j'ai tout expliqué ça. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais je voulais juste dire où est-ce qu'on en était rendu. La part de Dieu. Du côté de Dieu, comment ça fonctionne? Quand vous et moi, nous nous sommes repentis pour le salut. Quand ceux-là que nous évangélisons aujourd'hui, vous et moi, que nous évangélisons, comment ça se passe, comment ça fonctionne? Il y a du côté de Dieu. Et un des passages privilégiés pour nous aider à comprendre le mécanisme de la repentance pour le salut du côté de Dieu, c'était Ézéchiel 36, les versets 24 à 28. Ce n'est pas terminé pour ce passage. J'avais fini de montrer que Dieu entame un processus de purification dans la vie de la personne repentante. Un processus de purification, de mise à part, de sanctification, de mise à part. Il dit, je vous retirerai d'entre les nations. Hein? Et je répandrai sur vous une eau pure et vous serez sanctifiés, purifiés si vous voulez. Donc Dieu entame un processus de purification, de sanctification, de transformation positionnelle que l'on va continuer dans la vie du croyant au jour le jour. Voilà la part de Dieu dans le salut. Lorsqu'une âme se repent sincèrement devant Dieu. Je reviendrai à ce passage parce que nous devons regarder aussi, nous devons continuer à parler de la régénération, hein, purification, sanctification, régénération. Nous allons parler de la, continuer de parler de la régénération à partir du verset 26, et nous allons parler du verset 27 où Dieu dit, où Dieu continue de parler de sa part, de sa part, de sa contribution. Mais si je dis, c'est une façon de parler, hein, parce que toute la part revient à Dieu, toutes les parts reviennent à Dieu. OK? Mais j'ai dit une façon de parler. Il y a le verset 26, nous parle, je dis, je vous donnerai un cœur nouveau. Et à le verset 27 dit, je mettrai mon esprit en vous. Donc, autant de parts que Dieu réalise, fait dans le processus de repentance vers le salut. Mais avant que j'aborde ces deux derniers éléments-là, l'esprit qui habite en nous et le cœur nouveau que Dieu nous donne par l'esprit, cela dit, j'aimerais revenir sur un élément. Hein, un élément que j'avais commencé à expliquer et que je n'avais pas terminé parce que le temps de nous séparer était arrivé. C'est la discipline. Hein. Pas dit m'oublier. Hein, tu as parlé de la discipline. Je parlais de la discipline quand nous devions nous arrêter là. J'avais commencé à parler de la discipline. Dieu nous met à part, nous met à part. Il nous purifie, nous sanctifie. Mais j'avais dit que un des moyens utilisés par Dieu pour nous purifier, c'est la discipline. Mais c'est pas oublié. J'ai invoqué le prophète Malachie pour illustrer cette vérité. Je vous disais que le prophète Malachie, en Malachie chapitre 1er, rappelait au peuple d'Israël que Dieu corrige et discipline ceux qui sont à lui, ceux qu'il aime. Ce que lui aime, pas ce qu'il n'aime pas, pas ce qu'il n'a pas choisi. C'est ça, aimer veut dire chez Dieu. Pas ce qu'il n'a pas choisi. Il corrige, il châtie, il discipline ceux qu'il a choisi, ceux qu'il aime. Et j'ai invoqué aussi Proverbe 3, versets 11 à 12, qui vient au secours de ce que Malachie essaie de faire comprendre au peuple d'Israël quand il doutait de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu à l'alliance, parce qu'il vivait des temps difficiles. Malachie, Dieu dit, écoutez, j'ai choisi Ésaü, j'ai choisi Jacob, et je n'ai pas choisi, j'ai préféré Jacob, je n'ai pas préféré Ésaü. Hein, c'était une façon, je vous avais dit, que Dieu, pour Dieu, de rappeler au peuple qu'il châtie ceux qu'il aime. On s'en souvient? Et Proverbe 3, versets 11 à 12 vient corroborer cette vérité. Quand il est écrit dans Proverbe 3, versets 11 à 12, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie ceux qu'il aime comme un père châtie l'enfant qu'il chérit. Je vous disais que quand moi-même avec vous, nous lis la Bible et puis nous examinons attentivement la vie de Jacob et puis nous examinons la vie d'Ésaü, lorsque nous examinons aussi la manière dont Dieu traite avec Ésaü, lorsque nous examinons la manière dont Dieu traite parallèlement avec Jacob, eh bien, nous réalisons à quel point Dieu châtie, forme, discipline, instruit même, ne serait-ce que dans les épreuves, comme je l'avais dit, ceux qu'il aime, ceux qu'il a choisi, ceux qu'il préfère. Dieu a mis Jacob à part et Dieu a pris la vie de Jacob en charge. Vous connaissez le bagage sur Jacob. J'ai prêché une série sur Jacob et sa famille. Dieu a œuvré pour conformer Jacob à sa volonté, à la volonté de Dieu. Jacob est passé par des souffrances par lesquelles il a eu n'est pas passé, en tout cas pas autant, en intensité ou en quantité. Jacob est passé par des déceptions, Jacob est passé par des tribulations. Et dans le cas d'Ésaü, Dieu a laissé Ésaü diriger sa vie lui-même. Il avait la protection de Dieu, certes, selon la promesse de Dieu à son père, mais Dieu lui a donné la liberté de faire comme le reste du monde païen. Il est vrai que Dieu a accompli toutes les promesses de bénédiction qu'il avait faites à Isaac, à Abraham au sujet d'Ésaü. Mais il s'était libéré de la domination de son frère Jacob. En ce sens, il est béni par Dieu. Je ne suis pas en train de dire, j'ai déjà prêché dans la congrégation à l'effet que Ésaü est béni. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Dieu avait promis de le bénir. Mais il y a cette interaction, cette relation que Dieu avait avec Jacob qu'il n'avait pas avec Ésaü. Ésaü est devenu riche en sorte qu'il n'avait plus besoin de soutien de Jacob. Mais Dieu ne travaille pas dans la vie d'Ésaü comme il a travaillé dans la vie de Jacob. Voilà ce que je veux dire. Je viens de le dire, il a laissé Jacob se débrouiller tout seul, à part de le bénir, de le combler de bénédictions matérielles. Il n'a pas séparé Jacob. Il n'a pas, pardon, Ésaü. Il n'a pas sanctifié Ésaü. Et le message qu'il y a dans cela est tout simple, comme je l'avais dit mercredi dernier. À savoir que Dieu ne forme pas celui qui n'est pas à lui. Dieu ne dirige pas celui qui n'est pas à lui. Dieu ne châtie pas celui qui n'est pas à lui. Dieu ne conduit pas celui qui n'est pas à lui. Dieu ne discipline pas celui qui n'est pas à lui. Voilà la leçon qu'il y a. Et quand nous regardons la vie de Jacob, nous voyons Dieu à chaque étape. Jacob est chez Laban, Dieu est là. Jacob est à Bethel, Dieu est là. Jacob a dormi, Dieu est là. Et à chaque fois, quand nous disons que Dieu est là, Jacob trouve une révélation qui le fait grandir, qui le fait progresser avec Dieu. Comme Dieu le lui a dit, Dieu l'a suivi pas à pas. Dieu est à l'œuvre à chaque étape dans la vie de Jacob. Dieu enseigne Jacob. Dieu guide Jacob. Dieu châtie Jacob. Dieu discipline Jacob avec une tendresse à la fois, hein, une tendresse et une sévérité étonnante. La discipline de Dieu sur Jacob était tellement importante, était tellement lourde, l'oratoire. Peuple du Seigneur, chers amis internautes, que lorsque Jacob est retourné en Canaan, ou bien dans la terre promise, Jacob marchait yon bon, Jacob boiteux. Songez, la providence de Dieu a fait des ravages dans le corps de Jacob. Mais la providence de Dieu, nonobstant ces ravages dans le corps de Jacob, nonobstant les problèmes, les tourments, les tracas, les épreuves, les vicissitudes qui ont frappé Jacob, Jacob est un homme accompli. Jacob est un homme fait. Jacob est un homme travaillé. Jacob est un homme transformé. Ah, vous commencez à parler avec vous? Jacob est passé d'usurpateur, ou bien de trompeur, de menteur, qu'il était, à un homme brisé, certes, mais un homme obéissant. Un homme craignant Dieu, un homme transformé. Voilà comment Dieu traite ses enfants légitimes. Hébreux 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Eh bien, c'est ça moi les disciplines, oui. La transformation divine, la sanctification, le progrès spirituel passe aussi par la discipline chrétienne. Depuis, c'est vraiment petit bon Dieu, mais ça me l'est dit. Tout parler m'a parlé, mais ça me l'est dit. Tout parler m'a parlé, mais ça me l'est dit. C'est pour qu'on finisse, mais on va résumer. Pour pas moi, n'écoute pas, si tu as parlé, ça passe, tu as dit pour le dire. Ça me l'est dit, c'est que depuis ce petit bon Dieu, pour tout bon, depuis converti pour tout bon, depuis repenti pour tout bon, depuis sauvé pour tout bon, depuis on prend un mauvais route, bon Dieu a bon coup de fouet pour le capable de retourner dans bon route là. Parce qu'il n'est pas question qu'il te perde. Voilà, mais ça me devrait dire. Ou alors, ça fait partie de processus purification, transformation, croissance, ressemblance à Christ, conformité à Christ, que Bible a promet, là, que bon Dieu promet à moun, les sauver, qui repentit yo, et puis les sauver yo, par grâce. Et voilà, ça me le dit. Le passage d'Ézéchiel 36, verset à 24 à 28, nous apprend que l'une des plus grandes preuves de la véritable conversion, c'est la discipline divine qui nous conduit à la sainteté. Tout à l'heure, chrétien, ou pour mauvais chemin, bon Dieu, quitte on un mauvais chemin, qu'on n'a pas converti. Et ça me l'a dit. L'a ramené au. Et non seulement l'a ramené au, mais les cabas ont un coup de fouet. Pas pour le punir, mais pour le discipliner, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que Dieu s'engage envers chacun de ses enfants. Dieu nous encouragera, Dieu nous instruira, Dieu nous protégera, le gars ou pas qu'à manger nous, mais de la même manière, Dieu nous disciplinera. Hein? C'est pas mal. De la même manière, Dieu nous disciplinera. Nous ne pouvons pas faire ça au pitoy avec nous, mais de la même manière, Dieu, Satan pas faire ça au pitoy avec nous, mais de la même manière, Dieu nous disciplinera. C'est ça tout bon papa fait, m'te nous déjà, mercredi, et bien ça on fait. Et bien ça on t'est fait, là on t'est un petit tap grandi. Et bien c'est ça. Dieu partagera avec nous sa sainteté, il mettra sa nature divine en nous, mais il nous disciplinera. Il n'y a rien d'exagéré ici. Dieu nous retirera des nations, il nous rassemblera de tous les pays, il nous ramènera dans son pays, dans son royaume. Il fera de nous son peuple et il nous donnera la vie qu'il a préparée pour nous de toute éternité. Il arrivera parfois que les chrétiens voient comme un fardeau ce qu'ils devraient voir comme une bénédiction. Ça arrive. Il arrive parfois, je répète, que les chrétiens voient comme un fardeau ce qu'ils devraient voir comme une bénédiction. Hein? C'est-à-dire que parfois, il arrive que les chrétiens moins matures, hein, ils se plaignent que les autres ont libre cours de suivre leur voie, de suivre la loi du monde. D'enfreindre la loi de Dieu sans que eux-mêmes ne soient pas disciplinés. Et puis, depuis que chrétien fait la moindre infraction par rapport à la loi de Dieu, et puis il est discipliné. Eh bien, c'est là votre privilège. C'est un avantage que n'est pas un désavantage. Vous songez l'illustration de Barreau l'autre jour, si vous nous quittez à jouer dans flaque d'eau. Maman disciplinée par là, l'autre dit, bon, parents a dégagé avec eux. Et mais tout le monde ça, elle connaît maman de mauvais monde parce que maman fait ça. Et pourtant, c'est le tas de considérer son privilège, que le grand monde qui peut corriger. Et ça a capé d'elle pas Sortir un homme dans la vie demain si Dieu veut. Il s'est capable de sortir une femme dans la vie demain si Dieu veut. Parfois, nos chrétiens, bon, c'est pas vous-même, mais il y a des chrétiens qui semblent à Timon, mais pas comprendre le bon Dieu à travailler dans la vie. Non. Non, nous sommes appelés à savoir que la correction de Dieu, la discipline de Dieu, le châtiment de Dieu est une preuve de filiation éternelle. C'est-à-dire une preuve que nous sommes enfants de Dieu. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, vous châtie. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt de châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 7 et 8. La discipline, encore une fois, la discipline de Dieu, le châtiment de Dieu, prouve l'existence d'une relation parent-enfant entre nous et Dieu. Ce n'est pas l'inverse qui est vrai. Puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, dit l'auteur du proverbe de l'Épître aux Hébreux, cette fois verset 9 à 10, on a lu 7 et 8. Puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, qui fait référence au père humain, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Oui, pasteur, pas parler, pas parler en paix, il était pour le nous. Donc, j'ai parlé de Dieu qui nous purifie positionnellement et qui va travailler en nous, qui va nous purifier chaque jour. Hein? Et à, nous disons qu'il le fait aussi par la discipline. Et je suis venu vous dire de ne pas détester la discipline divine et de ne pas négliger la discipline divine et de voir la discipline divine comme étant un privilège, comme étant une marque, un signe que vous sauvez, que vous êtes enfant de Dieu. Dieu prend possession de chacun de ses enfants. Je répète, Dieu prend possession. Nous sommes à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes à lui, il est à nous. C'est ce que dit le cantique que vous aimez chanter. Il nous entoure de ses soins. Il nous accorde ses bénédictions. Il nous conduit de manière à promouvoir notre sanctification. C'est ça, mon Dieu a fait. Si malade, mon Dieu t'a guéri. Je prie pour le guérir. Si je ne peux pas manger sous table là, je prie pour le voir manger, pour le voir travailler. Mais en vérité, premier bagage, mon Dieu voulait faire dans moi, dans salut, maintenant, c'est transformer. C'est transformé. C'est fait me sembler à Jésus. Nous, ça déjà. On ne va pas prier pour travail, pour caille, pour voiture, pour santé, pour. Non. Peut-être qu'on pas chaud. Mais moi, je dis où? Et puis, il promet tout, tout. Il promet tout des bénédictions matérielles aussi. Mais moi, d'où? Déjà, je dis ça peut-être 1 million de fois dans la congrégation. Premier bagage, je le fais dans la vie. Mais c'est ça là. C'est que ça va bien manger là-dedans, là. Il va une machine là-dedans, là. Il va auto. Il va travail là-dedans. Ça va me dire que mon Dieu va travailler, tout même le dos. Projet A. Son projet avant tout de construction spirituelle, d'édification spirituelle, de transformation spirituelle. Ton projet de régénération, projet A. Ton projet de purification, projet A. Ton projet de conformité à Christ et à sa ressemblance que projet A. D'abord et avant tout, c'est juste samedi. Dieu ainsi travaille constamment dans la vie de ses enfants, de ceux qui sont à lui, de ceux qui sont véritablement convertis et sauvés. Il travaille constamment dans leur vie, comme je l'ai dit pour Jacob. Il les enseigne, il les corrige, il les discipline. Et il fait cela, Dieu merci, dans la tendresse, dans la sagesse, dans l'amour, Dieu merci. Hein? L'amour de Dieu pour son peuple fait de Dieu un travailleur infatigable dans la vie de son peuple. L'amour de Dieu pour son peuple, hein, fait de Dieu un travailleur acharné. Il travaille nuit et jour, d'heure en heure, de seconde en seconde, de minute en minute, dans la vie de nos familles, des hommes et des femmes de Dieu qu'il a choisis dès avant la fondation du monde pour le former, yo, pour le former caractère, yo, pour le former tempérament, yo, pour le passer galère sous yo, pour le passer roman, pour le passer galère sous yo, pour le polir, yo. Gloire à Dieu. Et laisse ça, les cabayons coup de marteau. Si on œuvre la fait, pour qu'on ait les bénis à faire travail, pour qu'on ait les bénis à faire meubles, il y a marteau, il y a clou, il y a des façons coup de marteau le bail, il y a des façons poli le passé, il y a des façons galet le passé. C'est à peu près ça comme image que je suis capable d'utiliser pour me faire comprendre, à faire bon Dieu qu'il travaille dans la voie là, ou qu'il pas même ouais. Quand vous avez des preuves, quand vous avez des problèmes, quand vous avez des portes ouvertes, quand vous avez des portes fermées, et puis c'est bon Dieu qui travaille dans la vie. Tout ça, c'est pour contribuer à transformer. Croyez-moi. De façon burin, que bon Dieu, bon burin, bon c'est béni, si vous songez, bon burin dans mes yeux, mais c'est ça. C'est la même image que nous sommes à l'argile, et puis les mêmes, c'est le potier. Ta vie, ma vie, c'est un projet. Je répète, ta vie spirituelle, c'est un projet. Ma vie spirituelle, c'est un projet. Vous êtes comme ça? C'est un projet. Son caille qu'a construit. Son caille que mon Dieu a construit. C'est ça, moi, un projet. Oui? Son meuble que mon Dieu a fait. C'est un vase que mon Dieu a fait. Son tableau que mon Dieu a peint. Ah ben, c'est ça. Voilà le travail de purification, de sanctification que Dieu réalise dans la vie de chaque monde qui convertit véritablement. Gloire à Dieu. Le fait est que le Dieu que nous servons, il n'est pas un Dieu désintéressé. Ah, il y a qu'on dit qu'il n'y a pas comme ça, il y a maman comme ça. Si vous n'avez fait n'importe bagaille, c'est pas problème. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu désintéressé, est un Dieu intéressé. Dieu est un Dieu et à présent. Dieu n'est pas un Dieu indifférent ou bien désintéressé ou bien négligent. Non. J'ai le conseil de garder moi avant pour le protéger nous. Et puis j'ai le conseil de garder moi avant pour le ramener nous sur bonne voie, les nous écarter de la voie. C'est ça un bon maman fait, c'est son bon papa fait. Protection, sécurité, bah, nous tout ça nous besoin. Et puis, discipliner nous. Bon, voilà. Voilà. Alors, l'Éternel Dieu, dans cette posture, ne permettra pas, frères et sœurs, que ces enfants se mettent à courir dans les rues de ce monde, sans surveillance, sans discipline. Alors, pourquoi il nous donne sa parole pour nous conduire? Il nous donne une loi, en quelque sorte. Je dis bien en quelque sorte. Mais ultimement, sa loi est gravée dans nos cœurs. Hein. Sa loi est gravée dans nos cœurs, mais au moins avec nous, nous connaissons les bagages, nous pas qu'à faire. L'évangile, ce n'est pas suivre un recueil de lois. Mais moi, avec vous, on est tout au moins que par amour, il y a des bagages nous pas qu'à faire. Il dit nous qui ça y est. OK? C'est ça. Donc, faut-il bien qu'il s'assure que nous demeurons dans sa parole, dans sa loi, dans son amour, dans sa communion, dans son intimité. Faut-il bien qu'il s'assure, qu'il veille à cela? Dieu n'agit pas comme un berger insouciant. Non, Dieu n'est pas notre berger par excellence. C'est pas Sergo, c'est Dieu. Pauvre Sergo, c'est Dieu qui berger. Mais ce berger-là n'est pas insouciant. Il ne laisse pas son troupeau errer, aller dans toute direction où vous voulez. Non, sa houlette et son bâton nous rassurent. Ah! Sa houlette et son bâton nous rassurent. Il nous conduit en même temps. Vous êtes là pour le rassurer, nous. Et puis, vous êtes là aussi pour son bâton là pour nous. OK? Voilà, frères et sœurs. Mais ma prière pour vous, c'est que Dieu vous donne des preuves éloquentes de sa providence qui est à l'œuvre dans ta vie. Et des fois, moi, avant de chanter, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, ce n'est pas seulement dans la délivrance par rapport à nos soucis matériels. C'est fais-moi voir comment tu es à l'œuvre dans ma vie, même en termes de discipline. Fais-moi voir, fais-moi réaliser quand je suis sur mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de l'éternité. C'est une autre manière de voir la gloire du Seigneur. Ma prière pour vous, c'est que vous voyez la preuve de l'œuvre de séparation et de sanctification de Dieu dans ta vie tous les jours. C'est que tu en vois la preuve. Tu peux en parler. C'est ça ma prière pour toi et pour moi. Ressentez-vous comme un plaisir, la paix avec Dieu. C'est ma prière pour vous. Voilà pour la discipline. Voilà pour la correction. Maintenant, on nous garde samedi à aujourd'hui. Un cœur nouveau. On en a parlé à d'autres occasions, peut-être depuis qu'on a commencé, mais ce n'est pas bien grave. Parlons maintenant d'un cœur nouveau. C'est le verset 26. Je vous donnerai, dit Dieu, un cœur nouveau. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai, dit Dieu, un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Gloire à Dieu. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, pardon, le cœur de chair, de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je répète. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Gloire à notre Dieu. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà, la promesse est scellée. C'est ce que vous avez déjà. C'est ce que Dieu a fait. Vous vous rappelez ce que j'avais dit? J'avais expliqué le processus de la régénération. La régénération fait référence au fait que le Saint-Esprit de Dieu donne un cœur nouveau aux chrétiens repentants, aux gens qui se repentent. Pas oublier ça, non? L'expression donner un cœur nouveau correspond à l'œuvre. Signifie l'œuvre de régénération du Saint-Esprit de Dieu, de la vie de la personne repentante. C'est important. Régénération signifie, dans l'original, ramener à la vie. C'est ça, régénération veut dire. Tout Nouveau Testament, c'est en ces termes que le Nouveau Testament parle de la régénération. En termes de résurrection spirituelle. Ah, la régénération, c'est, dans ce sens-là, c'est la résurrection spirituelle. Voici comment la confession de foi baptiste de Londres. Notre confession de foi à vous et à moi, par le fait même. Mais ça le dit sur ce sujet, ça. Je vais retourner sur la Bible encore. Je vais juste parler de ça et je vais retourner dans régénération encore. Et puis, cœur nouveau encore. Mais ça, voici ce que la confession de foi baptiste de Londres de 1689, qui est votre confession de foi, hein, à vous, à l'oratoire. Bien entendu, les résumés, ils viennent plus courts, mais c'est même bagaille là. Il s'inspire du gros document. Hein. Ta confession de foi s'inspire du gros document, ça. Le Saint-Esprit éclaire spirituellement l'intelligence des gens qui viennent à lui, des gens sauvés, et il leur permet de comprendre les vérités divines pour le salut. L'homme venu à mon Dieu, l'homme repenti, mais ça, Saint-Esprit a fait. Saint-Esprit a renouvelé l'intelligence, le candidat, oui, le candidat au salut. Saint-Esprit a renouvelé l'intelligence, lui, et puis il fait le comprendre à faire bon Dieu. Et c'est pour ça que je dis, c'est à la fois un acte accompli et un processus, parce qu'on ne va pas comprendre tout à fait bon Dieu pendant 5 minutes au converti. L'offre d'un message et puis qui mène au salut. L'offre fait un rêve et pour dire, moi-même, et pour dire, on va accepter Christ. Donc, on comprend qu'on ne va pas comprendre tout plan bon Dieu, toute parole bon Dieu, toute volonté bon Dieu. Et ça, comme nous, il parle de l'aspect processus, il parle de passer tous les jours dans la vie où l'œuvre de régénération a continué qu'on est là dans la vie pauvre avec la vie pauvre. Pas oublié, non? Il enlève, mais ça n'a pas empêché que ça nous complète déjà. Ça n'enlève rien à notre salut, OK? Il enlève leur cœur de pierre pour leur donner un cœur de chair. Il renouvelle le Saint-Esprit, ça oui. Il renouvelle leur volonté et il les attire efficacement à Jésus. Pas oublier comment on les points ça, nourrir les points ça. Le mécanisme de la repentance pour le salut du côté de Dieu. Du côté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Du côté des hommes, vous et moi, nous nous approchons. Nous disons, Seigneur, nous t'acceptons comme notre sauveur. Nous avons entendu le témoignage. Nous avons entendu par ta parole. Nous nous sentons touchés par ta parole. Nous voulons que tu rentres dans notre vie. Ça, c'est du côté des hommes, entre guillemets. Mais nous connaissons tout est du côté de Dieu. Mais toujours, juste pour les besoins pédagogiques, on a essayé de faire comme si c'était du côté de Dieu, du côté des hommes, mais tout est du côté de Dieu. La preuve, c'est que c'est Dieu qui bombe cet esprit-là, et puis pour convaincre moi, pour demander le son de parler là. C'est lui-même qui touche les cœurs. C'est lui-même qui travaille les cœurs. C'est lui-même qui convainc moi de péché, de justice et de jugement. Pour le faire ça, qu'il est en changé déjà. Gloire à Dieu. Régénération, c'est créer à nouveau. C'est fait de nouveau. Jean parlait de régénération en ces termes, naître de nouveau. Jean parlait de la régénération en termes de nouvelle naissance. Naître de nouveau. Le Christ, dans sa conversation avec le docteur Nicodème, on s'en souvient. Dans sa première épître, l'apôtre Pierre va parler de la régénération en termes de naître de nouveau, de nouvelle naissance. Le Christ en a parlé comme nouvelle naissance. Pierre parle en termes de nouvelle naissance. Ce que nouveau là. Que nouveau, c'est nouvelle naissance. Avoir un cœur nouveau, c'est être né de nouveau. C'est être régénéré. Pas oublier thème ça. Et puis, l'apôtre Paul, lui, ah, le vieux Paul, il va parler de la régénération comme le fait d'être ramené à la vie, comme le fait d'être ressuscité des morts pour marcher en nouveauté de vie. Hein? Paul va considérer la régénération comme une nouvelle création. Quand il dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, le cœur de chair, de pierre est passé, gloire à Dieu. Et puis, qu'on est là, on parle de nouvel homme, de nouvelle femme, de nouveau cœur. Gloire à Dieu. Eh bien, nous comprenons que dans le texte, le prophète Ézéchiel, il fait nous comprendre que la régénération implique un changement profond de l'être profond. Je répète, la régénération, d'après Ézéchiel 36, verset 26, le mystère de la régénération, l'œuvre, le travail de la régénération représente un travail radical, une œuvre radicale, une œuvre profonde, un changement profond de l'être profond, de l'homme profond, dans sa profondeur de son être, son cœur, son corps, son âme, son esprit, sa pensée, sa volonté. Ils ont tout passé au crible de la transformation divine. Pour un début, pour une continuité, jusqu'à la porte du ciel, jusqu'à la mort en tout cas, ou jusqu'à ce que Christ nous naît. La continuer, lève la pape campée, lève la fête dans une fraction de seconde, à la minute où Christ touchait la vie, moi,
positionnellement, qu'elle me régénère pour me dire, mon Dieu, moi confesse comme sauveur, comme Seigneur, et puis la passer chaque jour. Soit pas mauvais moment, soit pas bon moment. M'a grandi et puis m'a transformé chaque jour. Et ça, pour des bons chrétiens pas grandi, ou pas ils occupent, ou il faut se demander est-ce que vraiment il est converti, s'il pas grandi. C'est comme pas possible pour pas grandi. C'est pas possible pour pas grandi. Impossible. D'après ça, moi, avoir regardé depuis quoi, bien, je dis à 7 mercredi, impossible pour ne pas. Parce que Dieu t'engage, Dieu engage la personne dans un processus de transformation. On t'a parlé déjà, t'as dit que chaque monde a un rythme. Tant qu'on est dans l'école ensemble, tant qu'on est dans l'école grandi. Mais ça, que vous arrêtez même côté A, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, là, on a un bon problème. Une chair, un cœur de chair n'est pas comme un cœur de pierre. Un cœur de chair est sensible aux appels de Dieu. Un cœur de chair est sensible aux sollicitations de Dieu, aux invitations de Dieu, aux stimuli de Dieu, aux informations de Dieu, aux enseignements de Dieu, à la parole de Dieu. Un cœur de chair. Voilà pourquoi le cœur de chair n'a pas le choix pour continuer ramollir chaque jour plus. D'où la transformation que m'a parlé là. Mais le cœur de pierre, lui, est insensible aux appels de Dieu. Le cœur de pierre n'est pas influencé par les appels de Dieu, c'est le miracle du Saint-Esprit qui m'a parlé là. Voilà pourquoi Dieu commençait par nous donner un cœur de chair. C'est alors qu'on sera sensible aux sollicitations de Dieu, aux enseignements de Dieu. On se laissera convaincre par Dieu, on se laissera toucher par Dieu, on se laissera transformer par Dieu. Donc c'est tout ton projet glorieux, pas n'importe qui, ou pas n'importe qui. Sa maman n'a pas de café pour vous, sa maman n'a pas de café pour moi, Dieu l'a fait. T'as son projet éternel lié, oui. C'est mon projet de hier matin, non, de 40 ans, de 10 ans. C'est un projet éternel, c'est de toute éternité, oui. Dieu avait pensé à te donner, à me donner à moi un cœur nouveau, un cœur de chair. Et ça fait des formes, donc qui qu'on a gagné? Tant d'actes qu'on attendait l'évangile, ou alors qui est à mon homme, qui qu'on a gagné? Est-ce que lui a reçu un cœur de chair? Ce n'est pas donne-moi. Ou courir vite, faire mes questions, mais tu ne comprends pas. On peut avoir le prier, on va le prier pour mon nom. Mais tu te demandes, Seigneur, c'est-tu vrai que lui a un cœur de chair, lui, comme moi, comme toi, comme toi tu as promis? Les Écritures déclarent que les frères de Joseph ne pouvaient pas parler avec amitié avec Joseph. Et Genèse 37, verset 4. L'Écriture dit pourquoi? Car ils prirent Joseph en haine. Vous savez ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que les frères de Joseph avaient la capacité de communiquer avec Joseph, mais ils ne voulaient pas le faire. Leur haine envers Joseph les empêchait de le faire. Ils ne pouvaient pas le faire, ils ne voulaient pas le faire. Mais voilà, ils ne l'ont pas fait. Eh bien, il en est de même de la personne non régénérée. La personne non régénérée n'est pas sensible à l'appel de Dieu. Ça lui prend l'action surnaturelle du Saint-Esprit de Dieu qui transforme son cœur de pierre en un cœur de chair. C'est là qu'il va commencer à être attentif aux sollicitations divines, aux appels divins, aux exhortations divines, aux enseignements divins. Gloire à notre Dieu. Vous savez quoi? Il est 54. J'ai besoin de prier. Je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas oublier où est-ce que je suis rendu. J'ai plein de choses à vous dire là-dessus de la part du Seigneur. J'y reviendrai pour ne pas vous laisser quitter ici à 9h10, comme cela s'est produit depuis quelques mercredis déjà. Par contre, si vous avez peut-être des expériences à partager, des témoignages ou des questions à poser, c'est le temps de le faire aussi. Alors d'abord, on vous laisse quelques minutes pour vous décider là-dessus et avant que je puisse prier, mais laissez-moi arrêter l'enregistrement tout d'abord, s'il vous plaît.